95.7. Voici le commentaire de Bernard Drinville.
T'as presque 15. Monsieur Drinville, bon matin.
Salut, Monsieur Dominique.
Et pendant que l'Alberta se met littéralement en feu et est en train de s'immoler, nous, on surveille ce qui se passe à Belleville en même temps. Fait qu'il y a eu deux gros dossiers ce matin.
Non, et puis il se passe rien à Belleville. C'est bien ça le problème. La police provinciale et le CN, hier soir, ont lancé un ultimatum aux Mohawks de Thiendenaga. Thiendenaga, ça, c'est juste à côté de Belleville. C'est ce barrage-là qui fait que le transport ferroviaire est paralysé dans tout l'est du pays. Là.
OK.
Et là, le CN puis l'OPP, l'équivalent de la Sûreté pour les Ontariens, a dit... ils ont dit, en fait, aux protestataires, aux occupants de la barricade, si vous démantelez votre barricade d'ici minuit, vous ne ferez face à aucune accusation criminelle et vous ne ferez pas l'objet d'enquête policière.
Bon.
Puis là, les Mohawks les ont regardés, puis ils leur ont levé le majeur, puis tout est encore en place aujourd'hui, puis il n'y a rien que bouger.
Ben, ça, c'est un peu comme menacer mes enfants si j'applique jamais mes conséquences. T'sais, je veux dire, pour eux, ça veut dire quoi, une poursuite criminelle s'ils ne reconnaissent pas le gouvernement canadien dans son ensemble?
Non, non. Puis ils n'ont pas dit si vous ne démantelez pas, nous allons la démanteler. Ils ont dit si vous ne démantelez pas, vous ne ferez face à aucune accusation. Alors, les Warriors, ils ont regardé, ou enfin les Warriors, les Mohawks, là, on ne sait pas trop. Ils ont regardé, puis encore une fois, il rit dans la face de la règle de droit, malgré ce que Trudeau a dit vendredi. Trudeau a dit vendredi, c'est bien épouvantable. Les Canadiens souffrent. Ils menacent de perte d'emploi, etc., etc. Donc, il faut que les barricades soient démantelées. Les injonctions doivent être respectées. Et une fois qu'il a dit ça... Il a balayé ça dans la cour des Autochtones puis des polices provinciales en disant « pour ce qui est du démantèlement des barricades, on espère que le leadership autochtone va se faire entendre parce que nous, on a essayé et ça n'a pas fonctionné. Et dans l'éventualité où il y aurait une opération policière, ah ben là, ça ne relève pas de nous, surtout pas de l'armée. C'est les corps policiers provinciaux qui doivent décider en toute indépendance. » Il a pris la peine de dire « les gouvernements ne doivent même pas s'ingérer dans leurs décisions. » Ce qui est, honnêtement, Dominique, je fais une petite parenthèse, là.
Oui.
Les policiers doivent obéir, doivent être redevables de leurs gestes et ils doivent se rapporter aux politiques. C'est pas vrai que les policiers peuvent décider ce qu'ils veulent sans être responsables face aux élus qui ont été mis en place par la population pour contrôler notamment la police. Et là, on se retrouve dans un cadre juridique qui, honnêtement, qui me fait un peu sursauter, parce qu'à la faveur de cette crise-là, on se rend compte qu'il y a une espèce de jurisprudence qui s'est créée au fil d'un certain nombre de décisions, notamment de la Cour suprême, qui veut que les policiers, dorénavant, n'acceptent pas de directives politiques. N'ont pas à accepter de directives politiques. Moi, je comprends qu'on ne veut pas d'une police politique qui permettrait, par exemple, à un parti au pouvoir de demander aux policiers d'enquêter sur ses adversaires politiques. Ça, je comprends ça, là. Je comprends aussi que les hommes et les femmes politiques ne doivent pas se mêler des enquêtes policières. Ça aussi, je comprends là, que ça doit être indépendant. Mais de dire que les corps policiers ne doivent pas être redevables des décisions politiques prises par les hommes et les femmes politiques, prises par les gouvernements. Honnêtement, je trouve ça fort le café, là.
Effectivement, surtout dans un dossier comme celui-là. Mais là, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté à Montréal, mais dans tous les impacts dont on ne parle pas face à ce blocus-là, bon, propane, on en parle, mais dans un mois, nous autres, on n'a plus d'eau potable, là, parce que le chlore qui sert à traiter l'eau passe par là.
Mais si, ils ont fermé l'usine. L'usine de Bécancour est fermée depuis quoi? Une semaine?
Oui.
C'est là que se fabrique le chlore. Puis ils ne peuvent pas le transporter autrement que par train.
Ah, puis
pour des raisons de sécurité.
Exact.
Non. Puis là, j'en reviens à Belleville. Donc, ils ont donné un ultimatum. Les Mohawks les ont envoyés promener. Et là, je suis bien en peine de te dire quelle sera la suite, quelle est la prochaine étape. Parce que visiblement, les policiers ontariens ne veulent pas d'une confrontation. Je te rappelle qu'eux autres, ils ont eu leur OCA en 1995. Ça s'appelle Hyperwash, du nom du parc où ça s'est passé, dans le sud-ouest de l'Ontario. Mm-hmm. Il y a eu une opération policière en 1995 dans le parc d'Hyperwash. Et il y a eu une confrontation et il y a un Autochtone qui a été tué.
Oh boy.
Chez nous, c'est le caporal Lemay qui a été tué.
Oui.
En Ontario, ça a été un Autochtone qui a été tué. Et depuis ce temps-là, bon, il y a eu une grande enquête, tout ça. Et depuis ce temps-là, la police provinciale de l'Ontario est soumise à un protocole très, très strict où ils doivent essentiellement donner aux occupants toutes les chances de sortir par eux-mêmes. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on est encore là-dedans pour un bon bout. Je ne sens aucune volonté de la police provinciale de l'Ontario de démanteler la barricade par la force. Je ne sens pas non plus beaucoup de volonté politique de la part du gouvernement Ford de les pousser dans cette direction-là. De toute façon, ils se font dire par le premier ministre du Canada, vous n'avez pas le droit de lui donner de directive. Il faut qu'il fasse ça en toute indépendance. Ce que, je le répète, est un petit peu ridicule. Parce que là, tu te retrouves dans une crise, Dominique, où il n'y a plus personne de responsable. Trudeau dit « c'est pas mon problème, j'ai tout essayé, ça marche pas, fait que le leadership autochtone doit prendre les choses en main, ou la police provinciale. » La police provinciale, que ce soit celle de l'Ontario ou du Québec, n'a pas à obéir ou n'a pas à écouter de quelque manière que ce soit les directions politiques des deux gouvernements. Puis si tu as une police provinciale qui craint des débordements, qui craint qu'un affrontement armé ne dégénère, ben elle peut décider de continuer à faire ce qu'elle fait depuis deux semaines, c'est-à-dire demander gentiment que les Mohawks obéissent aux injonctions. Mais s'ils refusent, il n'y a rien d'autre qui se passe.
C'est incroyable, pareil. Je veux dire, le pays il n'est pas gouverné actuellement. Il y a personne aux commandes de rien.
C'est incroyable, Dominique, là. C'est quand même incroyable, là. Tu sais? Puis là, tu sais, tu parlais du chlore. Oui, il y a le chlore, puis il y a beaucoup d'autres entreprises aussi qui sont en danger, là, actuellement.
Le bois,
ben, chez nous, on surveille PFR, là. J'ai fait les appels ce matin à savoir s'il y avait des arrêts, là, mais on est rendu là, chez PFR.
Non, tu sais. Puis, bon, l'Alcan, ils ont nié, là, hein? Ils ont nié qu'ils avaient baissé leur production. Très bien. Mettons qu'ils ne l'ont pas baissé, leur production. Je peux te dire une affaire. Ils sont quand même, l'Alcan, actuellement, là, ils sont sur des charbons ardents.
Okay? Ah, ils sont puis, en état d'alerte.
C'est pas facile. Non, exactement. Exactement. C'est pas facile, la situation dans laquelle ils se trouvent présentement. Moi, ce que je comprends, c'est que l'Alcan, comme bien d'autres entreprises, veulent pas dire à quel point la situation actuelle leur complique la vie parce qu'ils ont peur de perdre des clients. Ils veulent pas dire qu'ils pourraient avoir de la misère à sortir le stock parce qu'ils ont peur que ceux à qui ils vendent leur aluminium se tournent vers d'autres fournisseurs. Mm-hmm. Alors, je les comprends. Tu sais, comme je comprends les autres entreprises qui utilisent le même discours. Mais dans les faits, un paquet d'entreprises au Québec puis dans tout l'est du Canada, qui sont actuellement sous pression. Puis éventuellement, ben moi, je pense que le nombre de mises à pied va nécessairement augmenter. Là. Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, tu ne peux plus donner d'ouvrage. Les usines, le processus de fabrication est au ralenti.
Je ne veux pas devancer ton sujet, mais est-ce qu'une décision comme celle de Tech Frontier donne du gaz à tous les opposants qui, ce matin, peuvent se dire... Ben, ça donne de quoi de bloquer les chemins de fer. On fait abandonner les projets. Même si on sait tous que c'est pas à cause de ça, ça donne-tu du gaz aux manifestants?
Probablement, Martin. Ce qui donne du gaz aux manifestants actuellement, c'est l'impuissance des gouvernements. Je veux dire, écoute, t'es un manifestant, là. Tu regardes ce qui se passe présentement, là, puis tu te dis...
Bord ouvert.
Ah, ouais?
Ouais, mais quoi, qu'à Saint-Lambert, ils sont partis.
Sors les chaises de camping, Esto. Sors les chaises de camping. Tu sais, si c'est l'été en hiver, let's go. On va aller s'installer. On va se faire un petit feu. On est capable de mettre la marde. Puis les policiers font rien. Puis les gouvernements sont menottés parce qu'ils peuvent pas donner de directive. Puis t'as un premier ministre à Ottawa qui dit, ben moi, qu'est-ce que vous voulez? J'ai tout essayé, puis ça n'a pas marché. Fait que débrouillez-vous avec le reste du problème. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que... Non, c'est catastrophique là, ce qui se passe présentement. Puis ça pourrait avoir honnêtement des impacts à long terme assez élevés.
Ouais.
Puis je suis pas en train de dire là, qu'il faut rentrer dans le tas. Puis je ne suis pas là-dedans. Je n'ai jamais été là-dedans. T'sais, on est capable de tirer le son du passé puis d'être un peu intelligent dans notre gestion. Mais le fait est qu'il n'y a rien qui va m'empêcher de tirer les conclusions. Là.
Et au niveau politique, Bernard, on n'a pas de gouvernement en attente non plus. Là. C'est minoritaire. On pourrait bien défaire puis s'en débarrasser. Mais il n'y a personne qui est prêt à prendre le pouvoir. Ça vaut pas mieux?
Tu sais, puis je vais te dire, si Trudeau continue à être mauvais comme il est là, éventuellement, on ne peut pas écarter la possibilité, là, dans un gouvernement minoritaire, là, tu ne peux pas écarter la possibilité qu'à un moment donné, là,
une coalition,
il tombe. Là.
Ouais, ou
chacun des partis, à un moment donné, ou enfin, oui, c'est ça, chacun des partis d'opposition peut, à un moment donné, trouver son profit dans un certain timing, dans un certain contexte, et puis décider que, bon, ben le gars, il est pas bon, il gère rien, on s'enfonce, ça prend quelqu'un de nouveau à sa place, et puis on s'en va en élection, et que le diable l'emporte. Et évidemment, l'ironie, ce serait que ça se fasse avant juin, avant que les conservateurs aient un nouveau chef. Imaginez-vous la situation, on était un peu en politique fiction, hein, mais on peut pas l'écarter complètement. Imaginez-vous, le gouvernement tombe, puis c'est encore Scheer qui est en place, parce que les conservateurs n'ont pas eu le temps d'élire l'autre. Imaginez-vous, tiens, on en rajoute une couche, que Scheer gagne l'élection.
C'est possible.
Oh boy.
Fait que ça, Scheer gagne l'élection, puis là, les conservateurs élisent un nouveau chef en juin. Fait que pensez-vous que Scheer va se tasser pour laisser arriver l'autre? Mettons que c'est McKay. Puis là, tu sais, McKay va dire, « Hey, moi, j'ai dépensé des millions de dollars pour me faire élire. Je suis pas chef. » Tu sais, je suis chef, mais je suis pas premier ministre.
Et là, alors, en t'entendant, on voit bien que son poignet autant que le gouvernement, l'opposition, ne peuvent pas faire ça.
Tu sais, je veux dire, bon. Fait que dans tout ça, moi, je vais vous dire franchement, vendredi, tu sais, j'ai bien vu là, que Trudeau pelletait ça dans le cours des autres. En même temps, je me disais, bon, ben il est quand même, il est plus ferme, là. Tu sais, il dit, là, les barricades doivent être levées, les injonctions doivent être obéies, ça peut plus continuer. Bon, tu sais, il y avait quand même un petit renforcement de fermeté de sa part. Fait que je me suis dit, ça, avec l'ultimatum d'hier soir, je me suis dit, il y a peut-être un peu de mouvement. Là. À un moment donné, on a le droit de vivre d'un peu d'espoir. Mais là, on se réveille un matin, puis absolument rien. Puis on ne sait pas trop qui va donner l'impulsion là, d'une éventuelle résolution.
Mais ceux qui étaient là, en passant, là, de l'UQAM, là, qui bloquaient la voie ferrée à Saint-Lambert, qui ont levé le blocus finalement bien doucement, bravo pour l'image. On était là au nom de l'environnement, puis on part en laissant un paquet de cochonneries.
Non, mais ils n'en sont pas, honnêtement.
C'est pas fort.
Ils n'en sont pas à une contradiction près, là. Ça, c'est ce monde-là qui tu sais, il manifeste contre le train, alors que le train, c'est un excellent moyen de diminuer les gaz à effet de serre. Tu transportes pas mal plus de marchandises par train que tu en transportes par camion. Puis là, je te parle pas du fait que, en plus, ils bloquaient une ligne de train de banlieue. Fait que un paquet de monde qui sont venus travailler en char au lieu de prendre le train de banlieue. Tu comprends?
Regarde,
là, une méchante gang de gorlots, là, quant à moi. Là.
Mais, hein.
Bon, maintenant, enchaînons avec le deuxième sujet parce que Martinus a ouvert la porte là-dessus.
Oui.
Alors, c'est sûr que... Alors, Tech Resources, là, juste là... Prenez 30 secondes pour réaliser là, une mine à ciel ouvert, mais une mine de pétrole bitumineux, 260 000 barils par jour pendant 40 ans. OK?
Oui.
C'est un immense projet de 20 milliards, sauf qu'évidemment, ça produit beaucoup de gaz à effet de serre. C'est 4 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année. Ça aurait été ça. Sauf que là, la compagnie tire la plug en disant essentiellement ceci, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. On ne connaît pas le cadre légal ou réglementaire. Le Canada n'a pas vraiment encore décidé comment il allait réconcilier le développement de ses ressources naturelles avec la lutte au changement climatique. Donc, plutôt que de s'embarquer dans l'inconnu pendant un aussi grand nombre d'années, on préfère ne pas y aller du tout. Bon, Martin avait raison de dire, ou est-ce que c'était toi, Dominique, que la vraie raison, c'est que le prix du pétrole ne leur permet pas de rentabiliser un investissement comme celui-là. Puis, soit dit en passant, là, j'ai fait un peu mes recherches. Là. T'as une vingtaine de projets actuellement en Alberta qui ont déjà été approuvés puis qui n'ont pas encore été construits.
Okay.
20 projets.
C'est beaucoup, hein?
Pourquoi? Ben parce que le prix du pétrole n'est pas au rendez-vous. Ouais, alors, gardez ça à l'esprit.
Ce que Jean-Thomas Bernard nous disait, c'est que, écoute, la conjoncture de 2010 à 2014 ne se repointera probablement jamais. Et ben, ça fait en sorte que là, ces projets-là sont plus rentables. Puis là, il en profite de faire une petite jambette à Trudeau en même temps.
Ben oui, puis tu sais, ben c'est ça, parce que c'est ce que j'allais dire. Gardez à l'esprit, là, quand vous allez voir les boutons revoler aujourd'hui, là, les boutons de chemise là, que Kenny puis Scheer vont déchirer, là, tu sais, en disant que c'est la faute à Trudeau, tu sais, la vraie raison, c'est pas Trudeau. La vraie raison, c'est les prix du pétrole. Mais cela étant dit, c'est un fait que... On ne sait pas trop où Trudeau s'en va non plus là-dessus. Là.
Ouais. Oui,
je veux dire...
Mais mettons que c'est une belle conjoncture d'affaires qui ne marche pas. Là. Puis au Canada...
C'est une tempête parfaite. Pour Trudeau, là, c'est une tempête parfaite. Remarque le fait que la société Tech Resources retire son projet, pour lui, c'est un cadeau du ciel. Là. Lui, là, c'est le premier petit break qu'il a depuis un petit bout, là. Parce que le problème avec ce fameux projet-là, c'est qu'il fallait que cette semaine, le gouvernement Trudeau se prononce. En fait, il y avait un conseil des ministres de convention. Tu avais des partisans du projet. Par exemple, Madame Chrystia Freeland, la vice-première ministre, elle s'est faite nommer ministre responsable de la réconciliation avec l'Ouest du Canada. Là. Oh, elle sait très bien, elle savait très bien que si le gouvernement Trudeau disait non à ce projet-là, elle était pognée pour gérer Canet pendant des mois de temps. Là.
Mm-hmm.
Mais, avec la colère qui vient avec et tout. Là.
Mais imagine, là, Bernard, t'es au PQ des années 90, puis il y a un projet comme ça au Québec, puis le fédéral te dit non. Allô le référendum?
Ben, c'est pas pour rien que... C'est pas pour rien. Non, mais t'as raison. Non, mais tu sais, le monde, ils se disent... La colère des Albertains, c'est un peu un show de boucan. T'sais. Ils sont pas contents, mais ça va se placer. Attends un peu, là. Le pétrole, c'est toute leur vie, eux autres, là. Le pétrole, c'est leur économie, là. Et là, ils voient ça s'en aller, là, sur l'iaube. Puis, ils sont en... Tu comprends?
Ben oui.
Ils sont en
colère
noire.
C'est de la faute à Trudeau. C'est de la faute à Trudeau. Puis t'as un ancien conservateur qui fesse là-dessus. Fait que c'est clair qu'eux autres, le mouvement We Exit, ça va partir.
Il est fort. Puis il va être encore plus renforcé maintenant avec la décision de Teck Resources. Même si c'est la compagnie qui prend la décision, tu peux être sûr que... T'sais, ils vont blâmer Trudeau pour ça. Puis ils n'ont pas totalement tort, dans le sens où, oui, il a pris du pétrole, mais la compagnie dit bien aussi que l'incertitude autour du cadre légal et réglementaire fait en sorte que le risque est trop grand pour elle. Cette incertitude-là est causée beaucoup par l'espèce de comment je te dirais ça, de direction à deux têtes de Trudeau sur ces enjeux-là. Tu sais, d'un côté, il dit qu'il faut développer nos ressources naturelles, puis de l'autre, il dit qu'il faut lutter contre les changements climatiques. Or, on sait très bien que si tu produis plus de pétrole, tu produis plus de GES. Fait que tu sais, il est comme en contradiction perpétuelle par rapport à lui-même, par rapport à sa direction politique. Et donc, c'est sûr que ça crée de l'incertitude pour les investisseurs.
Bernard, là. Juste te dire, pour moi, on t'écoutait en Ontario parce qu'on est en train de procéder à des interventions et à des arrestations actuellement à Belleville.
Oh!
Oui, ça
donc,
commence.
Ça commence, là. Sont
là-dessus. Bon, regarde, là. Honnêtement, je pense que malheureusement, là, on est rendu là.
Ben oui.
Je pèse mes mots, là. Malheureusement, on est rendu là.
Ben, malheureusement.
Parce qu'il y a un risque, là. Il y a un risque, mais là... Qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, ça ne peut plus durer pour toujours, là.
Exact.
Il faut... Écoutez... Je vais aller voir ça, là. Vous le voyez présentement. Moi, je vais aller regarder ça. On va espérer que tout ça va se terminer correctement, puis qu'il n'y aura pas trop de casse, puis qu'il n'y aura pas trop de. Il y aura pas de blessés, puis encore moins de victimes.
En terminant, on revient au provincial rapidement avec la contestation de la loi 21. Ça a l'air que Sonia Lebel se traîne les pieds.
Oui, ça, c'est Frédéric Bastien, celui qui se présente au leadership du Parti québécois. Là, tu sais, le professeur de cégep, c'est celui qui a remis en question, à un moment donné, l'impartialité de la juge en chef de la Cour d'appel. Là. Tu sais, à un moment donné, il fallait que la Cour décide si elle allait suspendre les articles de la loi 21 concernant le visage, concernant les signes religieux, là, concernant le droit de porter des signes religieux. Tu te rappelles?
Mm-hmm.
Bon, puis Bastien, il est sorti pour dire cette juge-là, dans ses interventions, elle fait preuve d'une partialité. Elle est visiblement pas d'accord avec la loi, puis ça paraît un peu trop, etc., etc. Bon, finalement, la juge ne s'est pas récusée, mais elle a effectivement pris position...
Ben oui.
Contre la loi 21 pour la suspension des articles concernant les signes religieux, mais elle a perdu parce que y avait les deux autres juges qui étaient avec elle, finalement, ont décidé de ne pas suspendre la loi. Bon. Et là, Bastien, il regarde ce qui se passe, il regarde les gestes, les paroles prononcées par les avocats du gouvernement, puis il trouve que le gouvernement est mou. Il trouve que le gouvernement, les avocats du gouvernement manquent de moyens dans la défense de la loi 21, puis il s'en inquiète. Il dit les groupes qui contestent la loi sur la laïcité ont plus d'avocats, plus d'experts, plus d'intervenants, plus de moyens. Puis il dit là, il va falloir que le gouvernement du Québec mette le paquet, puis défende correctement la loi. Puis moi, j'ai des doutes, dit Bastien, etc., etc. Je veux juste vous dire, j'ai parlé avec quelqu'un à Québec hier, parce que moi, Bastien a fait cette sortie-là hier, mais ça fait une couple de semaines que j'entends des gens me parler, là, qui m'appellent, ils m'écrivent, puis ils me disent, Bernard, il dit, on a l'impression que le gouvernement de la CAQ, là, on dirait qu'ils prennent pas ça au sérieux, puis ils mettent pas tous les moyens possibles pour défendre la loi 21, etc., etc. Fait qu'hier, j'ai eu une couple de discussions, et pour moi, ce qu'on me dit à Québec, inquiète-toi pas.
Ah,
On va mettre les moyens qu'il faut pour défendre la loi 21. C'est la loi emblématique de notre gouvernement. Puis des experts, s'il en faut plus, il y en aura plus. Puis des avocats, s'il en faut plus, il y en aura plus. S'il faut aller chercher au privé, on va aller chercher au privé pour venir bonifier, pour venir renchausser notre équipe du ministère public. Tu sais, bref, on va mettre le paquet pour défendre la loi 21. Inquiète-toi pas avec ça. Alors, ça m'a un petit peu rassuré. Je voulais vous le communiquer parce qu'effectivement, c'est une loi très importante. On sait que ça risque de se rendre jusqu'en Cour suprême. Fait que moi, je suis... On verra, on jugera l'arbre à ses fruits. T'sais, à un moment donné, c'est facile de parler. Là. T'sais, les belles paroles, des fois, ça nous endort, puis on se réveille, puis finalement, ils ont fait le contraire de ce qu'ils nous avaient dit. Mais moi, les personnes avec qui j'ai parlé m'ont à moitié rassuré, je vous dirais, sur leur volonté là, vraiment de s'assurer que la loi 21 soit vraiment, vraiment bien défendue avec les meilleurs avocats possibles, à la meilleure expertise possible, puis on va ménager aucun moyen au sein du gouvernement Legault et chez Sonia Lebel, la ministre de la Justice, pour s'assurer que cette loi-là soit la mieux défendue possible.
Mon cher Bernard, merci beaucoup.
Hey, salut, à la prochaine.
Jeudi. Bernard Drainville, il est 8h36. Martin, on aurait peut-être une breaking news ce matin. Faut enquêter là-dessus.
Sûr.
Une auditrice me jure avoir vu un train passer sur la traque de Grand'Anse ce matin.
Ben voyons donc, toi.
Oui.
Ça serait une grande première.
Ben là, tu dis, ah, t'es sûr?
Ça serait une grande première.
T'es sûr, t'es pas jonqué? Elle dit, non, je suis à Grand'Anse. Elle dit, normalement, il y a de la neige jusqu'à la terre. Il est rendu, tu sais, à ce temps-ci de l'année parce qu'elle déneige pas. Mais là, il y a un train qui est passé.
Ben, mon Dieu, Gisèle Harvey va être content.
Ça va être à vérifier. Merci beaucoup. 8h36.
Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick. Saguenay.